7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour à tous, à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au Parlement des écrivaines francophones. Elles sont issues de divers pays, elles veulent s'opposer aux guerres, toutes les guerres, à commencer par celles visibles ou insidieuses, voilées ou à découvert, dirigées contre les femmes. Le patriarcat sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un des sujets les plus importants dans la société, l'argent. Pour certaines, comme Isabelle Dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, gagner de l'argent, c'est comme de la boulimie. Pour d'autres, comme Mère Teresa et Sœur Emmanuelle, l'argent venait après la foi. Et l'Afrique qui gagne en deuxième partie d'émission, le portrait de Oumou Kaïri Diallo, agricultrice et éleveuse laitière au Sénégal. Un portrait signé Charlie Dupio. 7 milliards de voisins et de voisines, c'est tout de suite.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Les femmes et l'argent. Pourquoi dit-on que les femmes aiment l'argent ? Quels sont leurs rapports à l'argent ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui quatre femmes du Parlement des écrivaines francophones. Marie-Rose Abomo-Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique littéraire franco-camerounaise.
Exactement.
Sylvie Leclèche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et inspectrice générale des patrimoines, archiviste paléographe. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Bettina de Conak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine allemande.
Tout à fait, voilà. C'est vrai.
Et notre dernière invitée, Minia Chatterjee, vous êtes écrivaine indienne. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci.
Bienvenue à toutes les quatre dans cette émission. Et chers invités, votre rapport à l'argent, par exemple.
Alors, qui commence ? C'est moi.
Qui se lance,
Oui, alors je vais me lancer un peu. Alors, doctus cum libro, hein, comme on dit en latin, alors je vais le dire en français, savante avec un livre. En fait, il y a des enquêtes récentes qui montrent que les femmes ont un rapport très paradoxal avec l'argent. Moi, je me suis réinterrogée sur le mien, par exemple. Et les femmes ont le syndrome de la bonne élève. En fait, visiblement, il y a des enquêtes de 2018 qui montrent que les filles, dès qu'elles sont petites, elles préfèrent faire bien, se dévouer, voire être bénévole pour le collectif. Et ce qu'elles attendent, c'est de la reconnaissance symbolique et pas forcément matérielle.
Bettina ?
Oui, si l'on peut rebondir là-dessus, effectivement, moi je me suis interrogée aussi mon rapport à l'argent et je me dis, je ne suis pas à la hauteur parce que je suis hautement diplômée, docteur, S-lettres, etc. Mais quant à l'argent, je me fais toute petite. Et ce n'est pas normal. Et je me demande pourquoi c'est comme ça. Ben, tout simplement, de ce côté-là, mon éducation a été ratée, même nulle. Je n'ai jamais été éduquée à réclamer de l'argent.
Ça veut dire que ça vient de, l'éducation, en fait.
Tout à fait.
Je vous voyais rigoler.
Oui, ça me fait rire parce que je pense que les femmes souvent, en tout cas en ce qui me concerne, j'agis, je ne sais pas s'il y a une récompense ou pas. Pour moi, c'est l'action d'abord. Et quand je vois tout le travail que je fais, oui, Marie-Rose, envoie-moi un article sur ceci. Ah, Marie-Rose, est-ce que tu peux contribuer à cela ? Jamais je n'ai demandé à qui que ce soit de me gratifier de quelque chose pour tout le travail que je fais. Je pense que si nous, les écrivaines, nous sommes pauvres, c'est parce que notre rapport à l'argent est très compliqué. Oui. L'argent, c'est tout simplement un moyen d'action, pas pour le plaisir d'en avoir.
Myria Chatterjee, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre expérience, à votre rapport à l'argent ?
Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec mes collègues. Et aussi, je voulais juste... Ça me rappelle d'un exemple. Quand je travaillais dans une banque d'investissement où, d'abord, il y avait très peu de femmes qui travaillaient. Juste 7% des femmes, des employés étaient des femmes. Et même s'ils étaient des banques, des investment bankers, leur travail était de gérer l'argent, mais dans leur propre vie, les femmes étaient très mal organisées avec leurs propres fonds. Et puis, à l'intérieur de cette banque, Goldman Sachs, il y avait un petit groupement des femmes pour faire apprendre comment gérer leur propre fonds personnel.
Alors qu'elle travaillait dans une grosse banque quand
Exactement.
Même.
Exactement. Vous voyez, donc c'est un exemple d'illustrer ce
Mais c'est quelque chose qui est important pour vous, l'argent.
Au fait, si je peux juste rebondir sur le côté banque, on est au cœur même de la femme et de l'argent. Et vraiment, on a, la semaine dernière, encore, il y a eu un article dans le Handelsblatt, c'est une sorte de journal économique comparable aux Échos en France, les Échos. Et c'était marqué que les femmes dans, les dans la banque, il y a 3 hommes sur une femme dans le haut management en Allemagne. Déjà, l'Angleterre est mieux placée que nous. Il y en a 2 femmes par rapport à une. Mais quand même, elles sont rarissimes. Et on ne leur permet pas d'accéder en haut. Et pourtant, elles pourraient le réclamer. Et oui. Pourquoi les banquiers ou les femmes banquiers ne le réclament pas?
Je pense... Est-ce que je peux...
Oui,
je pense que, d'un côté, il y a un problème de headcount. Combien de femmes par rapport aux hommes. Mm-hmm. Mais le problème plus grand, c'est que qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Dans
le travail.
Est-ce que le travail est le même que leur aspiration, que leur rêve? Est-ce que ça... Et aussi l'inégalité de salaire.
Oui,
il y a un problème là.
Et justement, on reste dans la même sphère. En parlant de banque, il y a une banque qui a commandité au Royaume-Uni, la banque Santander, en 2018, une étude sur le rapport à l'argent dès l'enfance. Et c'est vrai que les filles seraient habituées à ne pas être primées et à intérioriser que participer à la vie collective sur le fonds de bénévolat. Mmh. Alors que les garçons, eux, ils sont élevés dans l'idée que tout travail mérite récompense. Tout travail mérite salaire et il faut mériter et aller chercher cette récompense. Les filles, elles, on leur dit, c'est du bénévolat, acceptez ce qu'on vous donne.
Mais écoutez... Oui, effectivement, et ce qu'on peut dire, c'est que ça renvoie finalement à des représentations très anciennes, parce que finalement, la femme qui se dévoue ou la femme qui règne sur l'argent du ménage, c'est-à-dire sur une sphère domestique, c'est des idées très anciennes. Et par exemple, moi qui étudie le XVIe siècle, dans tous les manuels qui apprenaient aux femmes à être des bonnes épouses, mais également aux maris à être des bons maris, qu'est-ce qu'on disait? L'homme va au dehors chercher de l'argent. Et à l'intérieur, en revanche, parce que la femme a besoin de protéger ses enfants, elle associe la gestion de l'argent du ménage à un besoin de sécurité. Et pour revenir sur les banques, du coup, je pense que ces études dont on parle, elles mettent en valeur une chose aussi, c'est que finalement, parmi les emprunteuses, les femmes sont moins nombreuses à emprunter des grosses sommes d'investissement. Mmh. Et du coup, elles sont moins portées aussi à prendre des risques pour entreprendre.
Est-ce que je peux... Je peux ajouter un autre contexte en Inde contemporaine, en fait. Il y a, en fait, 98% des femmes,
98%
des femmes. Oui, donc, même si elles sont des entrepreneurs, parce qu'elles sont dans le secteur informel, elles n'ont pas accès au crédit dans les banques.
C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Mais on voit que les préjugés ont la peau dure malgré tout cela. On dit que les femmes aiment l'argent. Pourquoi ce préjugé, les femmes aiment l'argent, ça persiste?
Je crois que c'est plutôt une vision masculine en disant la femme aime l'argent. Au fait, elle cherche l'argent sans pouvoir le chercher. Et par exemple, si vous regardez, si vous interrogez par exemple des jeunes à l'école, vous demandez à un garçon, qu'est-ce que tu veux devenir, faire plus tard? La plupart du temps, on reçoit, je veux une grosse voiture, je veux être riche, je veux gagner beaucoup d'argent. J'ai jamais entendu dire une fille qu'elle aurait ce rêve-là, cette ambition même. Et pourtant, ça devrait être normal.
Et pourtant, ça devrait être normal parce que nous vivons quand même une époque moderne où les femmes de plus en plus ont une activité professionnelle assez aiguë et elles ne tendent plus la main, n'attendent plus. Et on le sait, dans certains pays d'Afrique, ce sont les femmes qui portent l'économie du pays. Ah. Et cette chose-là devrait être, multiplié par... Moi, il y a quelque chose qui me surprend toujours ici. Moi, je suis d'origine camerounaise. Ici, en France, les femmes des agriculteurs français n'ont pas de retraite. Et pourquoi partout. Ces femmes
pourquoi
n'ont pas...
Pourquoi c'est comme ça
et, oui. Pourquoi elles n'ont pas droit à la retraite? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Peut-être que Sophie a une réponse là-dessus.
Mais tu sais, il y a même une évolution dans les milieux agricoles, parce que comme c'est une profession qui, même pour les hommes, ouais. offre de moins en moins de revenus, tu retrouves toujours la protection de la femme par mmh. rapport à son environnement. C'est-à-dire, beaucoup d'agriculteurs, quand ils sont mariés, ont une épouse qui travaille pas uniquement dans l'exploitation agricole, elle a un métier ailleurs. Et donc, l'argent qu'elle rapporte, c'est vraiment pour la sécurité du ménage, de la famille, et c'est pas du tout pour avoir une surface sociale plus grande.
On écoutera tout à l'heure un témoignage sur cette question de, ouais. voilà, de cette rétribution des femmes qui travaillent dans les zones rurales. On sait qu'en France, le droit aux femmes de pouvoir ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari date de 1965, seulement 55 ans. C'est très récent. C'est très récent, ça. Mais dans beaucoup de pays africains, qu'en est-il on sait qu'il y a beaucoup de femmes également qui toujours n'ont pas accès au compte bancaire. Et c'est quelque chose qui les rend toujours dépendants de leurs compagnons.
Oh, les femmes ont quand même une autre façon d'avoir de l'argent. Moi, je pense aux tontines. La notion de tontine, j'étais en mariage samedi soir. Et donc, il fallait faire un cadeau à la mariée. Elle ne se sent pas. Embêtées, elles ne se sont pas gênées, elles se sont mises au milieu de la salle, en pleine fête, entre les femmes de la même tontine, et on a vu les billets de banque sortir des poches, des seins et de tout, parce qu'il fallait donner un cadeau à la mariée. Et ça s'est fait là, et ce n'était que des femmes. Elles ont de grosses sommes d'argent de temps parfois.
Mais c'est un événement, certes, sublime, mais ponctuel. Et l'argent, une fois qu'on l'a encaissé, une seule fois, il n'y a pas la continuité. Et pas
exemple, mais quelque part, ça aide ces femmes à avoir un revenu quand même.
Démarrer quelque chose.
Oui, c'est très bien, mais pour...
Chez les Africaines, je ne sais pas ce qui se passe ici.
Chez nous, on ne donne pas de l'argent, on donne la porcelaine pour les mariages. On peut casser après.
Oui, mais tu vois, c'est vrai.
Non, mais la tontine, il y a différents types de tontines, par exemple. Il y a des tontines d'argent, il y a des tontines de tissu, il y a des tontines, voilà, ça dépend de l'objet et du contexte.
Pour revenir là au compte en banque, par exemple, s'il y a un compte commun dans un ménage, il y a quand même encore une fois le cas où monsieur tient toutes les codes d'accès, il change les codes d'accès, et c'est très facile avec le banking online, et que la femme n'est pas au courant. Je connais ce cas-là dans plusieurs milieux, même très élevés, du point de vue éducation, et je trouve ça lamentable.
Mais j'ai quelque chose à dire sur l'Inde. La situation évolue en Inde parce que pour les comptes bancaires pour les femmes. Il y a aujourd'hui 77% des femmes qui ont le compte bancaire. En fait, en 2014, c'était à peu près 43%. Donc, c'est vraiment, ça augmente. Mais il y a pas de rapport entre avoir une compte à la banque et avoir l'habitude d'avoir l'argent, de prendre de crédit, d'avoir des savings, tout ça. Et puis, il y avait une enquête en Inde qui montre que seulement 16% des femmes qui ont une compte à la banque ont des savings accounts, ont l'argent. Et les chiffres augmentent grâce aux programmes de gouvernement et des tentatives et tout ça. Mais ce n'est pas juste d'avoir ouvrir une compte. Non. Il faut
le gérer,
il faut exactement
le nourrir.
Mais à part ça, est-ce qu'en Inde, par exemple, il y a le système de tontine, comme on disait tout à l'heure en Afrique?
La tontine,
c'est une collecte.
Oui,
on a ça. Il a aussi microfinance. Il a aussi tout ça qui a eu du succès.
Et ça aide beaucoup de femmes à entreprendre la microfinance en Inde.
Oui, ça, en fait, il y a plus de succès que le système formel.
des banques.
Mais ça renvoie d'ailleurs ces systèmes de tontine à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Oui. En fait, on se rend compte que dans l'économie sociale et solidaire, il y a différents chiffres qui montrent bien qu'il y a un écart moindre entre les salaires des hommes et des femmes dans l'économie sociale et solidaire. Par exemple, il y a 21% encore, tout secteur confondu, d'écart entre les hommes et les femmes. Il n'y en a que 17% dans l'économie sociale et solidaire. Alors, 17%, c'est encore pas mal. Quand on sait que dans le secteur public, par exemple, il n'y a que 14% d'écart des rémunérations. Mais déjà, dans l'économie sociale et solidaire, en fait, il y a un autre rapport à l'argent qui autorise peut-être les femmes à être très ingénieuses dans les manières d'investir de l'argent.
L'argent, oui.
Avant de continuer, madame, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, quelque chose. Je dis aussi que pour que les femmes puissent avoir des comptes dans les banques, il faut que l'État structure un peu sa façon de dispatcher les salaires.
Dans les pays, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que si les gens sont habitués à avoir des bons de caisse, c'est-à-dire qu'on se présente à la pairie trésorerie et on vous donne votre argent là, ce n'est pas ça qui va motiver les femmes pour aller avoir des comptes.
Quand elles vont retirer de l'argent, par exemple, en banque ou...
C'est-à-dire que leur salaire arrive par bon de caisse.
Oui, d'accord.
Et ce bon de caisse est un frein pour atteindre, pour moi, les banques. Si on pouvait permettre ou dire aux femmes, ouvrez des comptes et votre argent va passer directement dans votre compte...
Bon de caisse, c'est comme un chèque ou...
Oui, c'est comme...
Et elles doivent aller retirer l'argent à la trésorerie.
Perception, à la trésorerie.
Ben, ma grand-mère faisait ça pour retirer sa retraite d'institutrice. Elle était à Carhaix, dans le centre du Finistère. Et moi, mon premier souvenir personnel sur l'argent et le rapport des femmes à l'argent, c'est d'accompagner pendant les vacances scolaires ma grand-mère. Elle arrivait dans cette grande perception où il y avait des comptoirs en bois du 19e siècle. Et une dame comptait les billets, mais effectivement, oui. Pour lui donner sa retraite. Et tu sais ce qu'elle en faisait après, ma grand-mère ? Elle traversait la rue avec moi et elle allait dans un magasin où on vendait l'argenterie pour les futures noces des filles. Et elle m'achetait, à chaque fois, elle m'achetait une ou deux petites cuillères. Ouais. Tu te rends compte ? Mais ça montre bien le rapport de ces femmes de devoir par rapport à l'argent. Elles ne gardent pas une partie de l'argent pour elles, c'est pour le donner à quelqu'un d'autre.
D'ailleurs, femmes de devoir, je voulais dire, on nous apprend par la littérature, par exemple pour les jeunes filles, qu'une femme qui est riche, en général, elle a le rôle de la garce.
Hein? Oui,
tandis
c'est
que
vrai.
La petite fille, pauvre, un peu maladroite et tout, ok, au départ, elle n'est pas très appréciée non plus, mais elle réussit à s'intégrer.
Oui.
Et j'ai regardé encore vendredi dernier une telenovela très populaire en Allemagne qui s'appelle Le Bergdoktor, le docteur des montagnes. Et là-dedans, il y a certes une femme qui travaille, une pharmacienne belle, blonde, etc., et riche. Encore une fois, au XXIe siècle, elle a le rôle adulte de la garce parce qu'elle est riche. Une autre femme qui traite le lait, qui élève des vaches et tout, tout le monde s'identifie avec elle parce qu'en plus, elle est généreuse, elle donne à tout le monde.
En fait, on montre un peu l'image de cette femme qui est riche, indépendante financièrement. C'est celle que tout le monde déteste.
Exactement.
Celle qui n'est pas acceptée dans
la
société.
Alors, comment voulez-vous qu'on devienne riche parce qu'on ne veut pas être détesté? On veut être riche et aimé.
Oui,
parce qu'on fait des bonnes choses avec l'argent. On peut faire des donations, des fondations.
Et aussi à ajouter
une petite intervention et on passe à autre chose.
Voilà. ce que je voudrais dire, c'est que depuis un moment, l'Afrique a évolué. Je ne sais pas quel qualificatif donner à cette évolution, où les femmes maintenant se déplacent pour venir chercher de l'argent pour entretenir leur famille. Et là, cette femme qui vient chercher de l'argent pour entretenir la famille, je ne sais pas comment qualifier cette chose-là, parce qu'il y a un renversement de rôle.
Oui.
Là où c'était le garçon qui devait chercher l'argent pour la famille, maintenant c'est la fille qui vient chercher de l'argent pour la famille. Et cette situation fait que plusieurs filles partent. Et elles viennent faire des métiers qu'on commence à bien connaître, juste pour entretenir la
famille. La famille.
Malheureusement, elles entretiennent la famille et à elles-mêmes, il ne reste presque plus.
En fin de compte, elle n'a plus quelque chose pour elle-même.
Elle n'a plus rien pour elle.
Mesdames, avant de continuer, je vous propose d'écouter cette chanson.
Un jour mon fils m'a demandé si j'étais riche. C'est à l'école qu'on lui a dit, il avait pas compris si c'était de la chance. La vie n'est pas rose, donc comment expliquer les causes? On ne connaît que le prix des choses, on ignore la valeur des gens. Moi je suis pas trop bavard, bien plus généreux qu'avare. Et tant pis si la gauche caviar me condamne et me dévisage. Je sais que ça dérange les croyances et les légendes. L'argent ne change pas les gens, ils ne révèlent que leur vrai visage. Alors j'essaie toujours de dédicacer tous les bouts qui vont éclater. Tous les braves qu'on tente d'écarter, tous les gars des terres d'écarter. Je vais pas claquer les bras ballants, je vais pas jacter comme une balance. Faire du chiffre et tenir ta langue, faire du bif avec mon talent. Plus je te connais, plus je te promets. Plus de monnaie, plus de problèmes, plus de molaires, plus de colère, plus de collègues, plus de commères, plus de bordel pour les impôts, plus de vices à payer plein pour vivre vite et mourir bientôt ex-pauvre avec des rêves genre quitter le ghetto définitivement, enterrer tous les gens qu'on aime dignement, réaliser ses projets les plus téméraires, prendre l'avion plus souvent que le RER, majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent. Remettre la lumière dans ma maison d'enfance. Quelques billets pour recaver en cas de malchance. Ça ne suffit pas à faire un homme avoir de l'argent.
C'était Youssoupha qui dit avoir de l'argent, ça, c'est notre thème du jour, les femmes et l'argent. Nous parlons du rapport des femmes à l'argent depuis une trentaine de minutes. On est resté dans l'aspect aller travailler pour avoir un salaire ou gagner sa vie. Mais qu'en est-il du travail domestique que les femmes font à la maison? Écoutons Marie-Angélique Savané, elle est sénégalaise, féministe et sociologue.
Le patriarcat, c'est un système, c'est même pas seulement au Sénégal, c'est dans le monde entier. Et dans nos pays africains en particulier, parce qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, se cache sous le couvert de la religion. On dit c'est Dieu, mais c'est Dieu qui vous a créé comme ça. Dieu n'a pas dit que la femme devait être soumise. Dieu n'a pas dit que la femme devait travailler sans être rétribuée. Parce que quand une femme paysanne travaille dans les champs de son mari, elle n'est pas payée. Or, c'est avec ce travail-là, quel que soit le travail qu'elle fait, qui permet à l'homme d'avoir une récolte qui va être vendue. Et après, c'est lui seul qui en bénéficie. La femme, ce qu'elle fait, c'est son petit jardin et tout ça, elle n'est pas payée pour ce travail-là. Donc, le fait de parler de la division sexuelle du travail, on a démontré, ça c'est une recherche que j'ai faite dans 3 pays africains pour montrer comment chaque travail en milieu rural est divisé. Il y a des tâches masculines et des tâches féminines. Les tâches féminines sont faites en dépit du bon sens. Personne ne pense à rétribuer les femmes. Elles le font, puis elles reviennent, elles rentrent à la maison. Elles ont leur propre petit champ de jardin éventuel dans leur concession. Elles vont faire le linge, elles vont faire la cuisine, elles vont chercher du bois, elles vont chercher de l'eau. Toute une série de choses qui, si elles ne le faisaient pas, la preuve, c'est que nous, quand on ne le fait pas, on doit payer une femme domestique qui vient travailler à la maison pour le faire. Ça veut dire que c'est un travail. Et ce travail-là, on dit qu'il doit être reconnu pour qu'on dise que les femmes ont un rôle social qu'elles jouent.
Je suis... Alors, chers invités,
permettez-moi de rebondir tout de suite. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Et c'est la même chose encore en Europe. Tandis qu'aux États-Unis, les femmes ont commencé à réclamer la rémunération à 50% de leur travail, c'est-à-dire 50% du salaire masculin. Elles vont aller au tribunal pour que leur travail domestique soit reconnu comme un vrai travail. Parce que imaginez-vous une femme qui consacre toute sa vie à élever les enfants, à faire le ménage, à cuisiner, etc. Elle n'a même pas une retraite. Et le jour où l'homme la quitte, elle tombe tout de suite dans la détresse et la pauvreté.
Elle se retrouve seule sans rien.
Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que moi je suis un peu plus nuancée là-dessus par rapport à ce que dit Bettina, parce que j'ai toujours peur, moi je suis d'une génération où on a dit aux filles investissez-vous dans la vie professionnelle, et j'ai toujours peur qu'en disant on rétribue le travail domestique, ça démotive un certain nombre de femmes en fait de se lancer dans la vie professionnelle. Moi je verrais plutôt des encouragements à l'égalité homme-femme dans dans le milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des femmes beaucoup plus dans les postes de direction, qui soient véritablement des modèles pour les jeunes femmes, et qu'on les aide, que la société plutôt les aide à ne pas avoir la double journée, ou que les choses soient plus douces. Mais je trouve qu'on n'est encore pas trop sorti de cette idée comme quoi il faut que la femme choisisse quand elle, après ses études, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'effectivement elle se consacre totalement à son foyer, ou est-ce qu'elle s'épanouit dans la vie professionnelle ? Et je trouve qu'il y a encore des combats dans la vie professionnelle.
Surtout la femme qui ne travaille pas, qui se consacre à son foyer.
Oui, voilà, qui n'a pas de salaire.
Oui, qui n'a pas de salaire.
Qui n'a pas de salaire, dont le travail n'est d'ailleurs pas reconnu. C'est très... Moi, je voudrais dire que le fait que... Nous, on a déjà un problème en Afrique, c'est le taux de scolarisation des filles. Oui. Donc, on ne peut pas prétendre, comme toi, à l'égalité. On essaye, on avance. Mais les filles sont très vite tombées enceintes. Tu vois. Mm. Et cette grossesse, une fois que tu es enceinte, ça limite ta vie. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas retourner au village, essayer de gratter la terre à la houe pour survivre ou pas du tout?
Oui, Myriam.
Oui, donc je voulais juste ajouter à ce que tu as dit, parce qu'il y a un vrai rapport, n'importe où dans le monde, entre l'indépendance financière d'une femme et la dépense vers l'éducation des filles chez elles. Dans les familles où la fille, elle ne gagne pas beaucoup, il n'y a pas une priorité donnée à l'éducation des filles. Mais là, il y a un problème pour calculer, en fait, l'avancement de l'éducation des filles, parce qu'il y a trop de focus en face sur les nombres des filles qui sont dans l'école. Ouais. Mais si on voit l'argent qui est dépensé sur l'éducation des garçons vis-à-vis l'éducation des filles,
il y a
toujours une très grande différence. Donc, même si dans les pays, on dit qu'il y a un avancement, plus de filles sont dans les écoles, mais il faut voir. Il y a une autre chose qu'on ne voit pas, c'est le drop-out rates. Les drop-out rates des filles sont la plupart des pays, on voit de développement, les filles, elles sont en école jusqu'à high school et après...
elles continuent.
Mais tout ça, il y a un rapport avec des parents, avec des femmes dans la maison, si elle est financièrement indépendante ou non.
Et la question de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est un gros problème également pour les femmes dans les entreprises, les femmes qui travaillent.
Tout à fait. Et pour revenir là, enfin, Sylvie avait déjà cité quelques chiffres, hein, et j'aimerais bien rajouter un pour revenir à la finance, ou que même donc de la banque où il y a des femmes, l'écart est de 28% et par rapport à une moyenne de 21%. Donc c'est intéressant que là où il y a l'argent, il y a un plus grand écart par rapport à la femme, de la rémunérée. On est plus radin.
En même temps, c'est vrai que heureusement, tout le monde ne travaille pas dans la banque, hein, ou tout le monde ne travaille pas dans le management. Il y a toute une variété de postes qu'on peut occuper. Par exemple, tu prends le Centre national de la cinématographie sur le site du Centre national de la cinématographie, il y a des études sur les égalités hommes-femmes. C'est d'ailleurs là qu'il vaut mieux regarder effectivement les questions sur le rapport des femmes à l'argent par le biais de l'égalité hommes-femmes. Et là, tu découvres que dans les commissions d'aide du CNC, la parité progresse dans le nombre de jeunes femmes réalisatrices qui sont aidées pour la première fois pour faire un long métrage. Et là, en 10 ans, les chiffres ont considérablement progressé. Donc ça, c'est un vrai espoir et qui va vraiment en écho avec le recrutement quasiment paritaire de grandes écoles de cinéma comme la FEMIS.
Oui, tu cites le cinéma.
Et il y a des... Notamment c'est encore dans les pays anglo-saxons, hein, au Royaume-Uni, la BBC, par exemple, a une journaliste 6 fois moins payée que son homologue masculin poursuivi son employeur et elle a obtenu gain de cause. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ces cas-là.
À la fois dans l'entreprise.
Pourquoi ?
Ben parce que
à compétence égale, les salaires ne sont pas...
Je pense parce que les postes clés sont encore majoritairement occupés par des hommes. Et c'est pour cela, moi, je pense comme solution, on devrait travailler plus en networking parce que les hommes, ils ont appris depuis des siècles à faire un réseautage par les clubs masculins, etc. Que nous, on avait interdit, on a été interdit d'entrer dans des clubs, même de se réseauter, de se rencontrer en public au 19e siècle. C'était vraiment... comment on dit, une grande chute en arrière pour toutes les femmes. Et depuis le 19e siècle, on essaye de regrimper petit à petit l'échelle et d'arriver en haut du podium. Ouais. Donc, oui, faisons du réseautage, ce que nous faisons au Parlement.
Ce qui n'est pas forcément... Oui, on va faire ce que tu dis là. Mais je pense que l'égalité quand même reste au niveau de, du statut de fonctionnaire. Hein. On peut pas... Les entreprises, et généralement, sont... Je parle des entreprises privées. Hein.
Oui.
C'est là qu'on peut trouver peut-être ça. Mais dans l'éducation nationale, où il y a le maximum de femmes, dans les hôpitaux, où il y a le maximum de femmes, je pense que ce dont elles se plaignent, c'est davantage... de la durée d'une journée, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail
dans la journée.
Et c'est là que, par contre, le salaire qu'elles obtiennent est nettement inférieur à la masse de travail qu'elles effectuent. Tout à l'heure, je voulais ajouter une chose à propos des filles en Afrique. Un phénomène qui m'inquiète absolument, ce sont les enfants fantômes. Si les enfants sont fantômes, les filles le seront encore plus.
C'est quoi ces enfants fantômes?
C'est les enfants fantômes, ce sont des qui n'ont pas d'acte de naissance. Et alors si elles vont jusqu'au CM2, et puis au moment de passer le premier examen officiel, on se rend compte qu'elles n'existent pas et leur vie s'arrête là aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il reste à aller faire un peu de commerce au marché, et à condition que le commerce ne soit pas déclaré, parce que là encore, il faudra montrer les papiers officiels.
Bettina de Conac, vous avez expliqué un peu votre expérience dans le cinéma. Vous avez écrit des scripts et vous étiez payée en deçà de ce que vous avez fait.
Au fait, c'était pas dans le cinéma, c'était enfin dans, parce que je suis journaliste
dans
aussi, dans le journalisme. Et effectivement, j'étais amenée à corriger un documentaire, le script d'un documentaire où je me connaissais très bien parce que je suis spécialiste de biographie de certaines personnes. Et on avait tourné un film sur ces personnes-là. Et j'ai touché un salaire minime. Au départ, j'ai dit oui, parce qu'on m'avait dit c'est peu de travail. Et puis j'ai vu qu'il y avait énormément de fautes là-dedans. Donc j'ai renégocié mon salaire.
Oui.
Et c'était une négociation pénible où vraiment j'ai fini par dire « Écoutez, monsieur, on va parler franchement. Si j'étais un homme, vous me donneriez tout de suite, dès le départ, même
votre,
le triple. »
Votre demande a été mal perçue.
Ben, il y eut un silence. Et j'ai obtenu gain de cause dans les 5 minutes qui suivaient. Mmh. Appelant un chat,
battons-nous. Mais généralement, on dit que ce sont les femmes elles-mêmes qui n'osent pas négocier. Mais
on ne l'a pas appris.
Elles minimisent ce qu'elles font. Elles n'osent pas négocier leur salaire. Pourquoi? C'est juste l'éducation.
Je ne sais pas si elles ne minimisent pas le travail.
Non.
Mais
leurs compétences, peut-être.
Même pas.
Non.
Même pas.
Non.
C'est que... ça ne lui vient pas. Or, on dit toujours, oh, on peut faire ça, on peut faire autre chose, on peut faire plus, hein, mais ce n'est pas très grave. C'est plus le salaire qu'on minimise que le travail.
Je pense aussi, les femmes, on ne fait pas toujours partie de l'espace où les négociations se déroulent.
Oui,
parce que la plupart des vraies négociations sont dans les rencontres informelles.
Voilà.
Et on n'a pas...
elles n'ont pas accès au cercle de négociation.
On n'est pas invité.
Oui, d'abord, on n'est pas invité. Aussi, il y a un tabou avec le mari et tout ça, parfois, dans certaines sociétés. Et là, je pense que, tout à l'heure, on a parlé des solutions. Une grande solution à tout ça, c'est aussi d'inviter les hommes dans les débats comme ça. Il faut que les hommes soient partis.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'hommes autour de la table.
Non, vraiment, littéralement, et aussi comme ça, parce que, en fait, je dis aux jeunes, des filles qui me demandent mon avis sur leur carrière, que le plus grandes décisions, un des plus grandes décisions qu'elle doit faire pour leur carrière, c'est de choisir un mari. Vraiment, c'était curieux de
changer.
La chose change parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont bien ouverts, qui sont très, donnent beaucoup de soutien à la femme, mais aussi il y a des hommes qui n'ont pas. Donc, on doit élever les garçons qui donnent les soutiens à leurs femmes et aussi dans les endroits de travail.
Et je pense aussi que, par exemple, dans les grandes entreprises actuellement ou dans la fonction publique, se développe une prise de conscience sur l'équilibre entre le temps de travail et le temps consacré à la vie familiale. Ouais. C'est pas que un sujet féminin. C'est vrai que si on encourage ce meilleur équilibre chez les hommes aussi, il y aura peut-être aussi un amenuisement de ces habitudes dont vous parliez, hein, toutes les deux, qui est que où est-ce qu'on parle d'argent, tard le soir, quand il y a des réunions où les collaboratrices femmes sont parties chercher leurs enfants à la crèche. Mais si c'est l'homme qui prend conscience que, tout comme sa compagne, il y a un bienfait pour tout le monde de s'occuper aussi bien de sa vie personnelle que de sa vie professionnelle, alors à ce moment-là, peut-être les femmes se sentiront beaucoup plus à l'aise pour briser le tabou de « on vaut combien ?».
Alors, on continuera tout à l'heure sur... vous voulez ajouter quelque chose rapidement?
Je voulais justement rebondir sur ce que dit Sylvie. Dans ce travail d'apprendre aux garçons à établir l'équilibre, c'est la maman qui doit le faire. Et si la maman commence à dire, écoute, ça c'est le travail de la fille, ça c'est le travail du garçon, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je pense tout simplement à l'exemple des Africains qui arrivent ici pour faire des études en Europe. Et non, ils n'ont jamais mis les pieds à la cuisine, n'est-ce pas? Il faut qu'ils apprennent tout ici. Et des fois, c'est... Donc, c'est à la femme de ne pas perpétuer ce qu'elle aura subi, je pense.
Mais... on n'est pas les seuls à les élever. Vous avez beau les élever, enfin moi j'ai deux garçons, à les élever d'une manière émancipée. Exactement. Si l'homme dans un foyer ne suit pas forcément l'image moderne,
c'est vrai. On a besoin des deux modèles.
Les deux, tout à fait.
Et il y a quelque chose aussi dans beaucoup de pays africains, peut-être que ça existe ailleurs, la dot. C'est pas quelque chose qui chosifie un peu la femme. Dans des familles, on a tendance à avoir des dots extravagantes, les sommes colossales pour avoir une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Et pourtant, au départ, la dot n'avait pas cet aspect pécunier.
C'était plus symbolique, la tradition.
C'était symbolique, tout simplement parce que on partait du principe que la fille qui s'en va doit... on doit dédommager la famille, donc on donnait des choses symboliques. Mais ce que c'est devenu maintenant, une fois mon frère s'est marié, il m'a envoyé la liste de la dot. J'ai fait le calcul, très vite fait, je suis tombée à 1 800 000 francs CFA. J'ai dit à mon frère, écoute, moi, je ne peux pas arriver à ce montant. Je t'envoie 200 000 francs CFA, ce qui n'était rien, une goutte d'eau dans l'eau. Récemment, un autre s'est marié, j'ai toujours eu le montant de la dot. C'est bien lorsque, pour certains groupes ethniques, on donne la dot, mais la famille accompagne la mariée dans le village du mari. Et là, on lui installe une maison, on lui donne tout. Là, ça va. Mais la dot qui va juste pour acheter de la nourriture, des caisses de bière
et compagnie. C'est devenu, on échange la femme contre l'argent, contre du matériel. Oui. En Inde aussi, ça existe?
Oui, ça existe. Il y a en fait une connotation assez négative. Oui. C'est pas comme un cadeau, c'est vraiment... la plupart des mariages en Inde sont des mariages arrangés. Donc, en fait, la femme est acceptée, la fille, elle est acceptée dans une famille si elle est accompagnée avec une
beaucoup
grande
de richesse.
Somme et les voitures et tout ça. Et en fait, la dot était par la loi, c'était, comment dire, elle était abolie par la loi, mais ça existe toujours.
Ah, oui.
La pratique, ça existe toujours.
Mais comment c'est perçu par les femmes elles-mêmes aujourd'hui?
C'est accepté, en fait. C'est vraiment quelque chose en Inde, mais ce n'est pas juste dans les sociétés, dans les villages et tout ça, même dans les villes les plus riches et les plus pauvres, partout. Et c'est des mariages arrangés, et parfois, la fille n'est pas si importante que la dot.
Et Bettina Le Connec et Sylvie Leclèche, c'est quelque chose que vous connaissez?
Alors ça, c'est assez intéressant parce que ce que j'entends, c'est finalement ce qui existait dans la France d'Ancien Régime, où c'était une société où on avait tellement peur des grandes catastrophes de la vie, mais ça doit nous faire réfléchir encore aujourd'hui, que la dot, elle servait aussi aux nouveaux couples à démarrer dans la vie, à s'installer. Et ça a aussi fondé dans la littérature l'image du coureur de dot, c'est-à-dire de la même manière qu'il y a une femme vénale, en fait, il y a des hommes qui couraient les dots et qui trouvaient finalement bien pratique d'épouser une femme richement dotée. Et ça nous fait réfléchir sur le fait que le mariage était une vraie entreprise économique. Aujourd'hui, il traîne encore. Moi, en surfant sur Internet hier soir, en essayant de regarder un peu comment on pouvait préparer l'émission, je suis tombée sur un article d'un journal belge qui justifiait en fait les alliances asymétriques entre les hommes et les femmes, en disant les femmes jeunes cherchent des hommes plus âgés et riches par le fait de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que l'homme cherche une femme jeune et attractive qu'il va gâter.
Entretenir.
Et je me suis dit, c'est fou parce qu'on a beau faire progresser les choses d'un point de vue législatif, et finalement, dans la société, il y a toujours des discours rétifs à ça et qui reviennent à un soi-disant état de nature.
Tout de suite, nous passons à l'Afrique qui gagne.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
L'Afrique qui gagne, le portrait de l'Afrique qui gagne, donc les voix de celles et ceux qui font bouger les lignes sur le continent africain. Cette semaine, Oumou Kairi Diallo, elle est éleveuse et agricultrice dans la région des Kaolack au sud-ouest du Sénégal. Elle est présidente du directoire régional des femmes en élevage des Kaolack. C'est dans cette région qu'elle a elle-même grandi aux côtés de 21 frères et sœurs. Aujourd'hui, elle milite pour une plus grande représentation des femmes dans l'agriculture et dans les organisations de paysans. Charlie Dupiot l'a rencontrée grâce à l'aide du réseau alimentaire. On l'écoute.
J'ai grandi dans un village, dans la commune de Nyeyeng. Donc, j'ai grandi avec mes parents qui sont dans une exploitation familiale agricole. Très, très, très importante puisque 40 personnes dans l'exploitation familiale. Je suis née dans cette grande exploitation et j'ai vécu dans cette grande exploitation. Et il y a le mil qui est la base de l'autoconsommation de la région. Il y a les arachides qui étaient une culture de rente. Il y a le maïs, il y a le niébé.
Et du coup, ces céréales-là étaient commercialisées?
Que l'arachide. Bon, quand on était enfant, notre temps était plus partagé parce que déjà, il fallait aller à l'école. S'il n'y a pas l'école, il faut aller au champ. Si ce n'est pas les champs, il faut aller voir les vaches, prendre les veaux et les ramener à la maison.
Et faire la traite?
Non. Moi, je ne suis pas née dans une région où c'est les femmes qui faisaient la traite. La traite, c'est réservé aux jeunes garçons puis aux adultes. Mais je n'ai jamais eu de déconnexion avec l'exploitation. Je suis née dans l'élevage, je suis née dans la production céréale et dans la production laitière. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appris, je l'ai hérité. Ça, c'est mon héritage.
L'image du paysan n'est pas forcément très bonne parfois. En tout cas, pour les jeunes aujourd'hui. Vous, à l'époque, quelle image vous aviez de ce métier-là?
Moi, je ne sais pas pourquoi, mais toujours j'ai porté le métier comme étant un métier noble. Donc moi, je ne l'ai jamais considéré comme un métier archaïque, je ne l'ai jamais considéré comme un faux métier là. On dit chez nous, celui qui confie son ventre, confie sa dignité. Presque tous les Sénégalais connaissent cet adage. Ben, je suis allée jusqu'en début, tout juste début de la classe de première, pas très longtemps. Je devais me marier, donc j'ai quitté les études, j'ai été mariée.
Vous aviez quel âge ?
17 ans, 7 ans plus tôt. Parce que c'était un mariage que je n'avais pas choisi au début. Bon. Quand je me suis mariée aussi, je me suis mariée à une personne qui faisait le même métier. Qui était agropasteur comme chez mes parents.
Vous avez travaillé dans l'exploitation familiale de votre mari, qui cultivait quoi ?
La même chose que chez mes parents. C'était toujours les mêmes cultures, puisqu'on était dans la même zone. C'était de la production de céréales, c'était de la production des arachides, de la culture de rente, et puis c'était le lait. Donc j'ai continué mes activités. Il y a eu la création de ce mouvement paysan sénégalais. En 1993, j'ai été membre fondatrice aussi de ce mouvement. Et j'étais parmi les plus jeunes personnes dans ce mouvement. J'avais 21 ans. Donc, mon premier garçon, non, il est né un peu après. Donc, je partais avec cet enfant au dos.
Aux réunions ?
Oui, dans les réunions.
Quelle était la proportion de femmes dans ce mouvement ?
On n'était pas encore très nombreuses. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient au niveau du conseil d'administration. Moi, j'ai connu 5-6 femmes, hein. Quand je dis 5 femmes, c'est au niveau du conseil d'administration qui représentait peut-être une vingtaine de personnes, quoi. Et après, pour qu'il y ait plus d'autonomie pour la femme, se démarquer pour pouvoir parler de ses propres problèmes, ce fut la création de ce qu'on appelle le directoire régional des femmes en élevage. Donc le directoire de Kaolack. Ça a été créé le 16 octobre 1998, officiellement. Non seulement nous sommes dans les exploitations familiales agricoles, avec zéro statut, on n'a pas de statut. Quand vous demandez, poser la question à une femme qui est dans une exploitation agricole, tu fais quoi ? Elle te dit, j'ai pas de travail. Or qu'elles sont les premières à se réveiller, puis elles sont les dernières à se coucher. C'est-à-dire, le lait est trait. Les femmes prennent, c'est elles qui enlèvent ce qui est destiné à l'autoconsommation. C'est elles qui prennent le reste et le revendent. Il y a peu de femmes qui sont gérantes directement de leur exploitation. L'homme, il a le plein droit dans l'exploitation familiale, parfois sans concertation avec la famille, de pouvoir vendre un bœuf ou autre chose. C'est pourquoi l'intérêt d'affilier dans des organisations professionnelles. C'est-à-dire, ça te fait connaître tes droits.
Quand vous êtes une femme.
Mais c'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'a pas terminé l'éveil des consciences de ces femmes-là. J'ai une seule fille, 3 garçons.
Et votre fille à quel âge ?
Elle a 30 ans cette année. C'est elle qui me remplace dans l'exploitation, quand je suis dans mes déplacements et autres. Je me sens fière par rapport à ça, parce que ça devient une transmission.
Qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne ?
L'Afrique qui gagne, déjà, c'est un beau slogan. Et si l'agriculture gagne, surtout l'agriculture familiale gagne en Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Et encore plus, l'Afrique va encore plus et mieux gagner si la place des femmes est mieux reconnue. Dans l'agriculture, je parle évidemment.
L'Afrique qui gagne, qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Mais avant, Sylvie Leclache, une bonne nouvelle par rapport à une femme journaliste.
Oui, Asli Erdogan a été acquittée le 14 février. C'est le jour de la fête des amoureux, mais c'est surtout qu'elle a été acquittée.
Merci à tous, merci à nos invités d'être venus nous voir. Demain, Français d'origine asiatique, leur histoire, leur parcours et ceux qui repartent, le rêve d'un retour, ce sera avec Emmanuel Bastide sur 7 milliards de voisins.
Merci.
Merci.
« 7 milliards de voisins, c'est fini !»
dans la peau.